Bonjour les collègues, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, les deuxièmes jeudis de chaque mois de 15h à 15h30 sur Radio Galère. La Gueule Ouverte, une émission qui fait monter la yoli, qui boulègue les consciences et qui dit stop aux connos.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la nouvelle émission La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille. Alors, dans un premier temps, nous écouterons les interventions de Laurine, qui est membre du CA d'Attaque France, puis de Marie-Dominique, qui ont toutes les deux participé au rendez-vous intitulé Le Village de l'Eau. Ça s'est déroulé du 16 au 21 juillet. C'est un événement qui a rassemblé habitants, syndicats, paysans et encore de nombreux autres militants dans la ville de Mel, qui est située dans les Deux-Sèvres. Et c'est un rassemblement qui a été l'occasion de réinventer les façons de manifester et de définir de nouvelles manières de marquer notre refus des projets des bassines. Dans un second temps, nous écouterons l'intervention de Josiane, qui est militante d'Attaque à Nîmes et qui nous expliquera le projet de méga-bassine qui est envisagé sur la commune de Rochegude, dans le Gard. Et puis enfin, Geneviève nous fera un point sur la situation actuelle à Notre-Dame-des-Landes. Je vous souhaite une très bonne écoute. C'est parti!
Bonjour Laurine, donc du CA d'Attaque France. Et tu as participé au village de l'eau du côté de Mel cette année. C'était donc une suite des mobilisations contre les méga bassines. Et puis je crois même que tu as participé à l'organisation. Tu peux nous raconter un peu?
Ouais, bonjour Christine. Ça fait très longtemps qu'Attaque, de toute façon, pour prendre un peu les choses par le début, participe aux luttes pour l'eau. Et bon, j'ai pris la suite avec d'autres camarades et on s'est impliqué en effet, comme tu dis, dans l'organisation, en particulier du village, puisqu'on était co-déclarants du village de l'eau. Et du coup, on s'est impliqué dans la coordination avec d'autres camarades, en particulier des camarades de Solidaires qui co-déclarent avec nous l'événement Bassine Non Merci et les Soulèvements de la Terre en particulier, parmi d'autres collectifs.
La Confédération
Paysanne. Et la Confédération Paysanne, alors oui, mais c'est plus particulier dans leur cas puisque, bon d'abord, ils sont en période d'élection professionnelle, n'est-ce pas? Et puis parce qu'ils ont une autre, des problématiques qui sont autres et qui rendaient plus complexe leur investissement. Donc ils se sont investis malgré tout en parallèle. Ils nous ont grandement aidés dans les relations, en particulier avec la coordination rurale qui a fait des siennes pendant le village de l'eau. Voilà, c'était une implication différente de leur part, mais toujours à nos côtés.
Donc tu peux nous rappeler un peu cette bataille de l'eau, ses enjeux à l'heure actuelle?
Cette mobilisation, elle est tissée autour du dispositif des méga-bassines que certains appellent de rétention, de réserve de substitution. Pourquoi ça nous pose problème ce dispositif? Parce que c'est tout simplement un dispositif de maladaptation d'un système qui accapare l'eau en fait. Et ce qu'on dénonce nous, c'est des conflits d'usage qui sont pas pris en compte, des mauvaises priorisations, hiérarchisation des usages, en particulier une non prise en compte d'abord des priorités d'eau potable pour les habitants du territoire et du milieu. Voilà. Donc pour nous, la priorité, ça devrait être la prise en compte du milieu et ensuite la prise en compte des besoins en eau potable des populations et non des usages pour une agriculture qui est en fait au service de l'agro-industrie. Et ce qu'on dénonce aussi prioritairement, c'est la faillite démocratique sur les enjeux de l'eau. Actuellement, la gestion de l'eau en France, de manière globale, elle est totalement défaillante. C'est une confiscation puisqu'elle est aux mains du lobby de l'agro-industrie et en particulier via le rôle particulièrement prégnant, omniprésent de la FNSEA. Et puis, via des préfets qui sont eux-mêmes défaillants ou qui ont des partis pris certains, puisque c'est les préfets qui nomment en fait les participants, participantes aux instances de gestion de l'eau. par exemple les PTGE, les plans territoriaux pour la gestion de l'eau, tous les participants au PTGE sont nommés par les préfets. Et ça pose d'énormes problématiques puisque souvent on se retrouve à avoir pas ou peu de représentation des habitants du territoire, des associations écologistes, environnementales, peu importe comment on les appelle. Donc voilà, c'est tout ça qu'on dénonce, cet accaparement et cette faillite démocratique.
Ok. Donc, les agences de l'eau, il y en a sur tout le territoire aussi. Avant, il n'y en avait pas du tout. Enfin, il y a eu des évolutions qui auraient pu aller dans le bon sens et qui, en fait, n'y vont pas, quoi.
Oui, parce que pour qu'elles aillent dans le bon sens, on y revient toujours. Il faut qu'il y ait une des formes de démocratie efficiente, de démocratie directe, de prise en compte des habitants. Et en effet, on a des exemples, hein, et c'est ce vers quoi on pousse. Et les régies publiques de l'eau qui sont mises en place dans plusieurs villes de France, puisque tout est lié aussi, justement, l'exemple de la sécurité sociale de l'alimentation, puisque les enjeux de l'eau sont bien souvent reliés aux problématiques de l'agriculture. Évidemment, les enjeux de municipalisation ou de nationalisation selon l'échelle ou le logiciel politique que l'on a. Enfin voilà, c'est tout ça.
Et donc ça s'est passé comment ? Il y avait beaucoup de monde. Ça s'est déroulé comme vous le souhaitiez ?
Bah, évidemment, donc j'ai un point de vue un peu biaisé, mais oui, moi je dirais que c'est une réussite. Les chiffres varient, mais c'est entre 30 000 et 40 000 personnes sur toute la semaine. Hein, voilà. En termes de formation, ça a été intense. Il y avait des propositions de formation tous les jours, et là on a calculé de mémoire environ 5 000 personnes ont suivi des ateliers. Donc rien qu'en tant que formation, que culture commune, tissage de culture commune, c'est déjà une réussite aussi de mon point de vue. Et c'est ça qu'on voulait faire d'abord, c'est se redonner confiance après Sainte-Soline. Et puis arriver à tisser ensemble des modes d'action très, très variés, très divers, et avoir une culture commune. Donc pour moi c'est un début, on verra ce qui se passe après, mais voilà.
Tout le monde a pu lire dans la presse que ça s'était terminé par une manifestation qui a un peu échoué. Et je ne sais pas si... Après, j'ai lu aussi le communiqué d'attaque, mais pas tout le monde, alors vas-y.
Oui, alors échoué, c'est pareil, c'est toujours... C'est toujours compliqué parce que je le dirais pas aussi simplement, même si en fait la manifestation à La Rochelle, si c'est celle dont tu parles du samedi, je suppose que c'est celle-ci, parce qu'il y avait la manifestation du vendredi.
Moi, je parle de là où la police a incendié un champ.
Ah, alors ça, c'est celle du vendredi, ouais. Celle du vendredi, en effet, on n'est pas arrivé à l'objectif, c'est vrai. Effectivement, parce que comme tu le mentionnes, les forces de l'ordre ont plus ou moins volontairement incendié un champ. Je dis plus ou moins parce qu'en fait, ils savaient très bien, en envoyant des grenades lacrymogènes dans un champ en plein été, un champ de certes moissonné mais pas déchaumé, que le feu risquait de prendre. Donc on a fait le choix de rebrousser chemin parce que le mot d'ordre était clair, le consensus pour nous était clair, c'était aucune confrontation, aucune mise en danger des manifestants et des manifestantes. Donc oui, en effet, c'est vrai que de ce point de vue-là, la manifestation n'est pas arrivée au bout. Après, malgré tout, ça nous a servi finalement, contre toute attente, en particulier cet acte dommageable des forces de l'ordre. C'est dans le discours que ça nous a servi, parce qu'en fait, on a vu jusqu'à quel point ils étaient prêts... pour nous empêcher finalement simplement de manifester, de nous exprimer. Voilà, c'est ça que je dirais.
Et donc le lendemain, il y a eu une autre manif.
Oui, exactement, oui, pardon, du coup, celle de samedi à La Rochelle, qui, là encore, on pourrait estimer qu'on n'est pas allé au bout, puisque les deux cortèges, initialement d'ailleurs, il y en avait trois de prévus, mais on a eu des problématiques de matériel saisi par les forces de l'ordre, les deux cortèges ne sont pas arrivés jusqu'au port. Malgré tout, ce que n'avaient pas prévu les autorités, c'est qu'il y aurait un blocage de camarades paysans, paysannes, dès le matin. Et que par ailleurs, la tension qui émanait de notre probable venue, de toute façon, mettait déjà en difficulté les infrastructures du port bien avant samedi. Et donc en réalité, le port a été mis en difficulté pendant une à deux semaines, et il y a eu ce blocage qui a duré une bonne partie de la matinée. Donc en réalité, c'est mission accomplie. En plus du discours, de la convivialité, particulièrement du cortège qui longeait la côte, avec des baignades, avec des jonctions sur des camarades qui étaient en catamaran, en kayak, etc. Enfin voilà, c'était très festif.
Et pourquoi le port de La Rochelle, c'est un grand port de commerce, c'est quoi ?
Oui, alors au risque de, parce que là j'ai pas tous les chiffres sous les yeux, mais c'est un des cinq premiers ports d'exportation en France, je dirais le quatrième de mémoire, donc en particulier de blé et de maïs. Ce qu'on souhaitait cibler, c'est les grandes multinationales, transnationales, qui au final, loin de nourrir le monde, spéculent, hein, parce que c'est ça le fonctionnement du port de La Rochelle, c'est des grands silos qui sont livrés et les céréales sont mises en attente, en attendant finalement de pouvoir vendre au plus offrant. Hein, donc c'est pas du tout dans un esprit de pouvoir nourrir au mieux les populations, et en plus c'est dans un esprit évidemment colonialiste, néocolonialiste, donc tout ce qu'on dénonce en réalité. Donc on souhaitait dénoncer tous ces grands semenciers qui spéculent.
Ok. Donc, et après, tu as souligné l'importance de la formation des militants, enfin des gens qui sont venus dans le village de l'eau, puis 30 000 personnes, c'est vraiment un chiffre super important. Et donc, la création d'une culture commune, les gens, ils venaient d'où finalement ? Enfin, tu as décrit un peu les associations qui ont organisé, mais ils ne l'avaient pas déjà, donc cette culture commune.
Il l'avait ou pas, c'est-à-dire que comme on est sur cette coordination, elle a de beau qu'elle regroupe plusieurs collectifs, plusieurs organisations qui ont des cultures politiques, des héritages différents. ATTAC, c'est évidemment différent des soulèvements que de la Confédération paysanne. Et on arrive à non pas s'opposer cette fois-ci, mais à échanger sur nos modes d'action, attaque, désobéissance civile, soulèvement, des choses qui relèvent du désarmement, etc., et à construire quelque chose ensemble. Et c'est ça qui permet, selon moi, d'avoir une culture commune qui est nouvelle. C'est-à-dire, on arrive chacun dans un respect mutuel avec nos héritages historiques, politiques, et à les fondre ensemble, quoi. Voilà. Et je trouve que c'est ressorti dans les formations qu'on proposait, qui étaient très concrètes. Il y avait du théorique, il y avait des ateliers de fond politiques où on évoquait la sécurité sociale et l'alimentation, plein de choses de ce genre. Mais il y avait des ateliers de déplacement qui étaient hérités en plus de collectifs étrangers comme Ende Gelände. Voilà, plein de choses de ce genre.
Ok. Tu vois d'autres choses à rajouter sur ce village de l'eau ? Ça a été, tu avais déjà organisé des choses ou pour toi ça a été une belle expérience
Même en ayant organisé déjà des choses, il est rare de vivre des choses de cette intensité. Et oui, et j'espère en vivre d'autres. Et je pense qu'il y en aura. Voilà, c'est ça que je peux dire.
Et l'an dernier, c'était une vélorution qui avait eu lieu là. Oui. Tu y avais participé ?
J'avais pas pu malheureusement, je ne sais plus ce que je faisais, mais un autre rendez-vous militant peut-être. Oui, tu parles du convoi de l'eau. Non, j'avais suivi ça, mais de loin malheureusement.
Ok, ouais. Merci.
Feel, how I feel, I wanna hear. I'm a hammer that I turned up
Bonjour Marie-Dominique. Bonjour. De bon matin. Alors tu étais cet été au village de l'eau, à Mel.
Alors il y avait énormément de monde. L'intérêt pour moi, ce que j'ai vu, c'est que c'était intergénérationnel. C'est-à-dire qu'il y avait aussi bien ma génération retraitée et énormément de jeunes. Et que c'était très cosmopolite. Après, dans les débats, bon, moi je suis arrivée le vendredi, on est reparti le dimanche. J'ai pas assisté à énormément de conférences et débats d'échanges. Ce qui m'a plu, moi, c'était comment le fait qu'il y avait la coordination mondiale de l'eau qui était là. Le sujet sur la sécurité sociale de l'alimentation, parce que je suis très investie dessus. Voilà.
Ah, et donc il y avait des personnes d'autres pays aussi alors ?
Oui, bah, il y avait comment l'Amérique du Sud, il y avait l'Asie, après je ne me rappelle plus trop, mais voilà, c'est vraiment. L'idée c'était une lutte internationale, quoi. C'était pas que le côté franco-français et franchouillard, si on veut, entre guillemets.
Mais c'est super ça. Donc, il y avait un stand d'attaque.
Oui, bien sûr. Donc, j'ai tenu le stand d'attaque en partie parce qu'on était quand même pas mal d'attaques. Bon, moi, je suis attaque à Orléans, donc on était trois d'attaque d'Orléans, mais d'Orléans, on était quand même plusieurs parce que, bon, on a l'habitude de fonctionner en collectif et du coup, ça fait un moment que, voilà, on se connaît et que le thème de l'écologie est quand même bien travaillé sur cette ville.
Vous êtes concerné par une bassine ?
Pas du tout. Pour l'instant, pas. Il y a une coordination qui s'appelle Terre de lutte sur la région Centre-Val de Loire et qui se base sur tous les projets inutiles et notamment un projet de bassine dans le Berry. Donc il y a vraiment une organisation, il y a toute une structuration au niveau régional là-dessus. Mais bon, c'est surtout nous, on est en plateforme logistique et la bétonisation des terres, c'est vraiment chez nous, c'est l'apocalypse. Donc entre la Beauce, agriculture intensive, et la logistique, on est servicié.
C'est Amazon, c'est d'autres.
C'est ça, c'est complètement ça. C'est Amazon et en plus, bon, reporter a fait tout un reportage là-dessus qui est très intéressant et qui a fait ressortir toute la spéculation financière sur les bâtiments logistiques. C'est-à-dire qu'ils sont construits avec des normes qui sont votées par l'Europe et tout ça. Ceux qui sont construits, qui sont vieillissants, ne sont plus aux normes, donc il y a des sociétés qui achètent et qui font construire ces centres logistiques, qui le revendent à d'autres sociétés. Et c'est le jeu de la patate chaude, c'est-à-dire que le dernier qui l'a acheté est perdant. Quoi. Mais c'est complètement aberrant. Quoi. Je veux dire, c'est la feuille douce au moment du réchauffement climatique.
Et vous avez donc beaucoup de passages de camions, de choses comme ça ?
Ah oui, complètement. Le centre, la région centre et la plateforme européenne.
Ah oui. Et vous avez réfléchi à des actions sur ces camions ?
Alors, c'est complexe. Alors, moi, c'est pas moi qui suis impliquée directement dedans, mais là, il y a un projet qui pourrait être, si ça se concrétise, si on arrive à mettre en place, et je suis assez optimiste là-dessus, une coordination entre bon, ceux qui se battent contre la bétonisation des terres, donc notamment méga-bassines et tout ça. Et bon, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis très investie dans la sécurité sociale de l'alimentation, donc c'est l'agriculture, l'installation de paysans et reprendre la main en tant que citoyen et tout ça. Et donc l'idée, ce serait de travailler sous des angles différents, avec des approches différentes, mais avec le thème principal qui est la terre, quoi.
Merci beaucoup. Donc, toi, tu es de Nîmes et tu me disais que vous avez un projet de bassine qui se fait jour dans le Gard.
Dans le Gard, oui, voilà, c'est à Rochegude, du côté de Barjac. Donc, des terres qui ont été réquisitionnées pour pouvoir faire un projet. Alors, de 600 000 m² au départ, qui risque d'augmenter. Et il ferait plusieurs petites bassines, dont une qui est... du côté de la ville de Barjac, voilà, la commune de Barjac. Et donc l'eau serait pompée dans la rivière de la Cèze, qui est déjà bien asséché dans des périodes très sèches, notamment comme en ce moment, et comme tous les petits ruisseaux, Gardon et compagnie. Voilà. Donc une association et un collectif, une coordination, on va dire, s'est mis en place, avec notamment la Confédération paysanne gardoise, avec surtout Attac Alès, alors Attac Nîmes, on suit le projet, mais on n'est pas, voilà, Terre de Liens, Saint-Hilaire Durable, Terre Vivante, et puis une association Terre Vivante Cévennes, dont Attac Alès est présente, et puis les soulèvements de la terre Nîmes, où nous, à Attac Nîmes, on est proche aussi d'eux. Voilà, donc c'est un gros projet. Et il y a eu, juste un petit peu avant le Bassine Non Merci, une journée dans un petit village dont j'ai mangé le nom, entre Alès et Uzès. Une journée où justement on a exposé cette question de l'eau. Et c'est l'association Osaguet, O-E-A-U, voilà, aux aguets, qui voulait donner des informations plus précises sur ce problème de l'eau, mais au sens global et puis au sens strictement bassine. Voilà, donc il y a eu des thèmes comme l'eau et l'agriculture, comme sur le plan administratif, quelles sont les infrastructures qui s'occupent de l'eau et comment c'est géré au niveau des dans les bureaux, on va dire comme ça, pour faire vite. Et puis je ne sais plus ce qu'il y avait, quelles sont les alternatives qu'on peut mettre en place. Donc on a eu, c'était en visioconférence, ça, un hydrologue qui est venu nous expliquer les choses. C'était très intéressant parce que on part souvent sur des fausses interprétations. C'est une aberration effectivement de faire des bassines, mais avec des choses extrêmement concrètes. Et puis,
en tout cas, des méga bassines.
Méga bassines, voilà. Ouais. Mais même les retenues collinaires, faut quand même faire des études de terrain, enfin des études à quoi ça va servir et pour quel type d'agriculture. Parce que dans le Gard, qui va se servir de ces méga bassines, alors qu'on peut déjà réfléchir sur comment retenir l'eau, comment ne pas la gaspiller. Voilà, tout ce travail, on l'a pas. Donc c'est tout un parallèle, tout un travail qu'on a fait autour de tout ça. Ben voilà, on est parti avec des gros bagages. Mais là, j'ai pas toutes les informations. Mais c'est un travail à suivre parce que c'est ce qui se passait à Sainte-Soline, en tout plus petit dans ce département du Gard, mais qu'on peut retrouver, je pense, dans plein d'autres départements. Si on ajoute toutes les petites bassines qui pour nous sont des méga bassines, ça fait quand même des choses gigantesques, quoi. Voilà.
Ok. Et puis puisque tu es là, une question autre, quoi, mais sur Fournes. Qu'est-ce qui se passe sur ce grand terrain dont on a chassé Amazon?
Je suis bien contente que tu me poses cette question parce que on est resté pendant 2 ans et demi, voilà, sur l'acquisition de la victoire entre guillemets. Et puis on se disait tout le temps, mais ce terrain maintenant il faut l'occuper, il faut en faire quelque chose parce que ils vont recréer un projet et ça n'a pas raté. La mairie il y a à peu près 6 mois, enfin ça date d'un peu plus longtemps, mais les conseils municipaux souvent cachent un petit peu leur au dernier moment, et parce que quelqu'un va à un conseil municipal à un moment donné ou voit un article en disant tiens, il y a un nouveau projet qui se met en place sur les terres de la Palle à Fournes, et voilà, un village style village de marque, quelque chose qui a rien à voir avec l'agriculture. Et donc on avait quand même sous le coude, quand je dis on, c'est l'association ADER et puis ATTAC, et puis voilà, on avait déjà, quand on a commencé à militer contre l'installation d'Amazon, un contre-projet déjà, un contre-projet agricole. Et là, ce contre-projet, s'affine, et il s'agirait de mettre en place une régie agricole. Donc, régie agricole, ça veut dire des petits bâtiments dans lesquels il y aurait probablement ce qu'on appelle, entre guillemets, des cumas. Mais je ne veux pas trop m'avancer, mais l'idée, c'est ça, c'est-à-dire des outils qu'on prêterait et l'installation de petits maraîchers sur des espaces pas très grands. Et puis, il y aurait des bâtiments qui seraient à l'extérieur, en fait, de ces terres. Bâtiments énergie positive, etc., etc. Donc un vrai projet agricole là aussi, dans lequel l'eau serait utilisée dans le besoin de l'eau et non pas dans l'excès, etc., etc. Donc c'est un beau projet, et il y a eu un article il y a à peu près un mois et demi là, puisqu'ils ont fait une conférence de presse à Nîmes, toute l'équipe d'ADER, sur justement ce nouveau projet qu'il faut absolument soutenir. Et le maire n'est pas d'accord. C'est toujours pareil.
Et on le trouve où cet article ?
Alors je pense qu'on peut le trouver sur Midi Libre, lequel je ne sais pas. Je pense que.
C'était quelle date la conférence ?
Oh, c'était en avril-mai. Je me souviens plus.
Ok. Eh ben écoute, c'est. On est content de savoir.
I'm on the borderline, I'm the astronaut. I have been everywhere, I've seen everything. I saw infinity, I could not believe there were so many of us in this taxi. I met a girl when I was living on Earth. We had children and we went walking in sunlight. How many times I wish that I could return there. She never asked me why, she just knew.
Geneviève, tu as des petites nouvelles de Notre-Dame-des-Landes ?
Ben écoute, des petites nouvelles, je ne sais pas si c'est des petites nouvelles. Bon, la vie continue sur la DAD, avec des points positifs, avec des difficultés. Il y a toujours une énorme énergie entre les personnes qui se sont impliquées dans différents projets, soit des projets agricoles, soit des projets artisanaux, culturels, etc. En projet artisanaux, si tu veux, bon, il y a la boulange depuis toujours, il y a la forge, il y a le cuir, il y a différentes. En culturel, il y a toujours la bibliothèque, le talus, l'organisation de conférences, de lectures de textes récents, etc. Enfin bon, il se passe.
Des ateliers vélo.
Ateliers vélo aussi. Enfin, bon, mécanique auto. Enfin bon, je ne vais pas faire une liste exhaustive. Et bon, donc toujours énormément d'énergie, etc. Et puis toujours une situation très compliquée et par moment très conflictuel avec les institutionnels. Bon, alors maintenant, au niveau des gens qui avaient poser des projets agricoles. Maintenant, ils ont des baux agricoles de 9 ans. Mais par contre, au niveau de l'habitat, il n'y a rien de réglé. 6 ans et demi après, les habitants sont toujours squatteurs de leur propre logement. Qu'il s'agisse des vieilles fermes, des vieilles longères qui ont été investies, plus ou moins retapées, etc., ou qu'il s'agisse des habitats légers, les caravanes, les camions, les yourtes, etc., il n'y a rien de réglé, 6 ans et demi après. Donc il y a des choses en cours, avec des projets par lot, où il y aura dans les lots une partie qui sera de l'achat par le fonds de dotation, une partie qui sera des baux, différentes possibilités autrement aussi, mais les revanchards qui ont essuyé l'abandon du projet de l'aéroport continuent à faire des tas de goujateries, alors qu'il aurait suffi de dire, bon ben, vu comment que c'est, on crée une zone expérimentale pour 5 ans, pour 10 ans, puis on laisse faire, etc. Et c'est pas du tout le choix qui a été fait. Choix d'emmerder les gens au maximum. Et le conseil départemental espère, parce qu'il sait bien que les personnes qui habitent sur la ZAD maintenant prendront soin du bocage. Donc le conseil départemental, demeurant propriétaire, espère qu'il pourra se glorifier d'un succès environnemental, écologique, etc. Magnifique. Donc tu vois, ils font chier les gens, mais ils espèrent en tirer pour leur propre intérêt, pour leur propre image. Voilà, c'est...
Ça te va ? Très bien, merci Geneviève.
Alors voilà, notre émission s'achève. Juste le temps de vous informer de la tenue d'un événement de grande ampleur qui se tiendra à Marseille les 4, 5 et 6 octobre et qui s'intitule « La Cité des Possibles ». C'est un événement qui va célébrer en fait l'arrivée du Tour Alternativa 2024, une vélorution de plus de 6000 km en relais qui va donc arriver, s'achever à Marseille. Pour cela, Attaque Marseille et Alternativa ont prévu de nombreuses rencontres, débats, ateliers et autres représentations théâtrales sur l'ensemble du week-end. Alors ça va débuter le 4 à l'après-midi, aura lieu en fait le dernier départ de la vélorution. Donc les vélos partiront de l'après-midi et arriveront au square Léon Blum, avec pour cela un concert d'Ashka et de Pastiche 51. Le lendemain, le 5, parmi les nombreuses propositions de la Cité des Possibles, je peux vous parler d'Attaque qui va préparer un débat sur la diminution du trafic aérien, et ensuite la troupe des Ascendants, la troupe de théâtre d'Attaque, présentera quelques sketchs autour des thèmes de l'écologie et de l'agriculture. Le 5 au soir aura lieu un second concert toujours prévu au square Léon Blum. Et enfin, cet événement se terminera le 6 au soir avec un grand débat qui aura lieu à la Villa Méditerranée, c'est-à-dire à l'actuelle Grotte Kosker. Voilà, un programme détaillé sera prochainement disponible. En tout cas, on vous attend nombreuses et nombreux à la Cité des Possibles. Et en attendant, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis au mois prochain pour une nouvelle émission de La Gueule Ouverte. Allez, salut !
C'était La Gueule Ouverte, le rendez-vous mensuel d'Attaque Marseille. On se retrouve le mois prochain, le deuxième jeudi du mois, de 15h à 15h30 sur Radio Galère. Allez, zou, bouleg, casse-toi, bye, bye.